Daniel ou Dynastie?
C'est toi qui poses les questions, c'est toi qui sais.
Bah, tu veux m'appeler comment?
Je t'appelle Claire ou
Claire.
Madame Claire.
Moi, j'ai envie d'appeler d'abord Daniel.
Bah, oui.
Et on finit par Dynastie.
Bah,
si tu veux.
Ce qui est bien, c'est que c'est la même personne, tu vois. On est bien là, ça va, on peut abriter. Pas de schizophrénie, il n'y a pas deux personnages, de bipolarité, deux en un, et puis des fois. Wow, tu tombes sur Dynastie, attention, Daniel il est plus cool. Attendons qu'il redevienne Daniel, parce que tant qu'il est Dynastie, là, l'autre il se prend la tête et tout. Alors que Daniel il est plus tranquille. Enfin,
tu crois ça?
Bah il y en a oui, mais...
Je pense que Daniel et Dynastie c'est la même personne.
C'est la même.
Comme on est
c'est
un titre privé.
Même vieux con, et ça s'arrange pas. Donc, Dynastie Daniel vieillissant. Donc, c'est Dany-nastie, en fait. Maintenant, je signe.
Ah,
les...
c'est sympa, ça.
Ouais. Dany-nastie.
C'est vrai, tu signes ça sur les pochettes?
Non, pas les pochettes, les textos, tout ça. Pour les un peu proches, c'est Dany-nastie.
Voilà. C'est sympa.
Ou alors Dany-nastouille, Dany-nastoche. Dany-nastoche, rien dans les poches. C'est moche, mais je me. Jamais je me le reproche, tu vois. Dany Nastouille, le roi de l'embrouille, rien dans les fouilles, mais. Mais plein les couilles. Ouais. J'en ai comme ça.
En fait, t'arrêtes pas de faire des rimes.
Des rimes et de l'autodérision.
Bah, c'est chouette ça.
Ça calme, bah ouais. Pour ça, je le fais pour d'autres aussi, hein. Ouais.
C'est vrai qu'en fait, moi, je te connais pas
star,
du
le
tout.
Le roi des fondblards, coule chaîne, enlève tes chaînes. Ouais, il y a toujours une rime à la con. Qui... Je suis un rappeur frustré. Du coup, je me venge. J'écris plein de textes. Cette nuit, j'en ai écrit pendant 4 heures. Est-ce que je vais les rapper un jour? Ça, je sais pas. Mais pourtant, j'avais rien sur quoi écrire. Alors du coup, j'ai pris des pochettes de disques, des blanches, et j'ai écrit dessus. Est-ce que déjà je vais arriver à me relire? Parce qu'en général, quand t'as l'inspiration qui t'écrit, c'est... Puis après je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Ah, ok, ça doit être ça. Etc. Les rimes, les mots, toujours les mots. Rien au bout, bien sûr, toujours le zéro. Qui sont dans ma tête, qui tournent en boucle. Des fois, je ne sais pas ce qui se passe, je ne me vois pas encore, mais trop souvent, je bois à la tasse. Ce n'est pas que je me fasse tellement d'illusions, mais quand même, une à une dans ma vie, s'accumulent les déceptions. Je peux encore me battre, j'encaisse les coups. Je resterai toujours debout, jamais me mettrai à genoux. Car depuis longtemps, j'ai choisi mon camp, je suis des rebelles, fidèles à mes idées, je suis un résistant. Mais il y a des blessures qui jamais ne cicatrisent, il y a le regard de glace de tous ceux qui me méprisent. Des fois je veux tout péter, mais pour l'instant je me maîtrise, et j'ai quand même peur qu'à force mon cœur se brise. Pourtant de l'amour, j'en ai plein mon cœur, mais de nos jours ce sentiment n'a plus de valeur. On délaisse la tendresse, les caresses, et même la gentillesse est une valeur en baisse, car tout ce qui les intéresse... Et pour eux, ce qui presse, c'est de remplir en vitesse leur tiroir caisse. C'est par exemple, tu vois.
T'as cette sensation-là qu'ils remplissent leur tiroir caisse.
Ah bah oui, mais enfin, ça c'est récurrent.
T'as quand même vécu des super choses, t'as voyagé, tout ça.
Ouais. Ah oui, ouais. Et alors?
Qu'est-ce que t'aimerais bien revivre là, du coup?
Moi, ce que j'aimerais... C'est refaire un pèlerinage à San Francisco qui a illuminé mon cerveau et m'a donné une façon de voir les choses. Et d'amener Barbara et Frédéric avec moi. Et voilà, il y a deux endroits où il faut absolument qu'on aille ensemble. C'est San Francisco. Déjà qu'ils comprennent pourquoi je suis qui je suis, puisque c'est quand même là-bas que je suis... Enfin... espèce de renaissance, enfin, vu que je suis parti tôt de lycée harmonique, donc voilà, c'est ça qui m'a apporté le plus des galères, mais en comparaison de la positivité des gens que j'ai rencontrés et de ce que j'ai reçu du rapport noir-blanc, du rapport homo, pas homo, enfin, tout, San Francisco, c'est quand même très spécial. J'ai eu la chance de connaître ça dans des années Starkey et Hutch, donc 78, tout ça. Donc ça, c'est un bagage qui m'a donné la force de faire tout ce que j'ai fait par la suite. Après, il y a le Japon. Pour Barbara est fan de manga, Pokémon, etc. Et il faut qu'elle voit le Japon parce que son mental s'y adapte bien. Donc, il faut qu'on arrive à ce que je trouve une ou deux soirées là-bas. Je me fais pas payer. En échange, je paye un billet à Frédéric et Barbara. Et on passe une semaine juste qu'elle ressente l'espèce de décalage qu'il y a avec notre culture et qu'elle comprenne mieux pourquoi ci, pourquoi ça, et que ça, qu'elle ait une vision du monde différente. Ça a déjà été le cas quand on l'a amenée à Londres. Donc c'était son premier voyage en dehors de France. C'était il y a 2 ans et elle était hallucinée, quoi. Elle a trouvé les gens tellement gentils, la vie tellement propre. Et puis elle disait, mais on dirait que c'est des châteaux partout. Et ouais, mais à Paris, c'est ce que les étrangers disent, mais nous, on ne le ressent pas. Elle dit, bah ouais, mais là, quand même, moi, j'aime bien les trucs médiévaux. Et là, je dis, ah, mais c'est du faux médiévaux, hein, tu sais. Il y a des trucs vrais et puis le reste, c'est du néo-gothique. Donc, ouais, mais c'est pas grave, c'est tellement bien. Et les magasins sont géniales. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas chez nous, tu vois. Puis elle trouvait surtout que les gens étaient super polis, courtois. Chose que, en tant que Parisien, Parisienne, tu sais même plus que ça existe. Une espèce d'élégance, de côté de gentleman, machin, etc. Enfin bref, voilà.
Les deux soleils de ta vie, c'est Frédéric et Barbara.
Carrément.
Ça, c'était une chance de rencontrer, ouais. Frédéric, incroyable.
C'était la chance de ma vie, ouais.
Et t'aimerais lui dire quelque chose, là, à travers le micro? Ou non, tu le gardes pour toi?
Oh non, tu... bah, c'est... Je l'aime complètement et pour toujours. Enfin, moi, je suis quelqu'un de long terme. Mais apparemment, elle aussi. Donc, je l'ai fait chier vraiment dans certaines périodes. Et j'avoue que j'ai été loin, mais c'est le côté créatif qui m'a complètement captivé et que j'étais sûr qu'il fallait que j'aboutisse certaines choses de manière à continuer à exister. Et c'est ce qui est en fait en train de se passer. C'est-à-dire que même si ça a passé 3 ans pour ce putain de dernier album où la sortie était mal foutue, enfin c'est une catastrophe, n'empêche que je suis arrivé au bout et que moi c'est un point en moins, du coup je peux passer à autre chose, même si Frédéric, franchement, elle en a eu tellement marre de moi à ce moment-là. Elle me trouvait tellement égoïste, le fait de penser à moi, mon œuvre, Zarma, ma carrière, tout ça, et que la famille souffrait. Mais je ne voyais pas comment faire autrement, parce que si la famille souffrait plus, moi, je me retrouvais déjà qu'autorep, puis bon à rien. Tu vois. Et dans le milieu artistique, ça va tellement vite, et dans le hip-hop encore plus. Du coup, si je balançais pas quelque chose de nouveau qui me ressemble et qui fasse un peu parler, franchement, là, je serais déjà dans les oubliettes, Dynastie, c'est bon, respect, hein, mais il a fait son temps, maintenant il végète, normal à son âge. Voilà. Donc j'ai réussi à combattre l'empathie, j'ai réussi à transformer l'empathie en un respect vrai, et du respect vrai à revivre grâce à ce respect vrai qui vient de jeunes comme d'anciens. Tu vois. Et surtout les jeunes qui sont surdocumentés et qui savent ma vie par cœur, qui lisent les bouquins, les interviews, enfin, tu vois, comme vous parliez de Hachachi, voilà. Jeunes, c'est les jeunes qui ont fait qu'au bout de 15 jours, le magazine n'était plus disponible. Hein. C'est pas les anciens qui disent « ouais, il n'y a plus rien pour nous ». Et ceux que ça faisait chier, finalement, ils ont juste à fermer leur bouche et puis à essayer de comprendre l'exemple que je peux leur faire passer à travers moi, que c'est un choix de vie et que si tu t'y tiens et que tu as quand même quelque chose de légitime à faire passer au travers de ça, eh ben, y a aucune raison que ça dure pas. En tout cas, j'en suis une des preuves vivantes. Voilà. Le seul plus âgé que moi, c'est Sidney, qui a 60 ans. Chabin, qui a 1 an de plus que moi. Enfin voilà, pour parler d'anciens, anciens. Puis après, moi, je suis le troisième. Par contre, des trois, j'ai toujours été le plus activiste. C'est-à-dire que les deux au-dessus ne survivraient pas au jour d'aujourd'hui si moi j'avais arrêté. Finalement, je leur donne à eux aussi la légitimité parce que j'arrête pas de parler d'eux, de les remercier, de les mettre en valeur, parce que je pense que c'est nécessaire, et puis pour montrer une espèce de solidarité, même si ils m'ont pas eux-mêmes fait la vie facile.
C'est une grande famille, comme quoi la grande famille.
Voilà, ça clash des fois, etc. Mais ça se lâche en privé, mais après, il faut montrer une espèce de solidarité.
Et tu fais des interviews, toi, à RFI ?
Non, bah, je joue du son.
D'accord.
Je passe tout le mois à faire pays par pays, à essayer de trouver ce qu'il y a de plus intéressant dans le rap d'aujourd'hui, dans chaque pays. Il y a des pays où c'est de la merde. Alors, si tu veux que je te cite deux, trois exemples, l'Italie, la Pologne, l'Autriche, tous les pays baltes, où tu sais pas si c'est des fachos qui rappent, enfin c'est assez trouble. En tout cas, ils ont tous le crâne rasé avec des tatouages bizarres. Donc, la plupart ont fait la guerre, c'est très trouble.
Et les meilleurs, enfin, ce que tu aimes, tu trouves que c'est pas mal, qu'ils suivent un peu ta ligne.
En ce moment, c'est l'Espagne, le rap espagnol. Okay. Ouais. Pas latino, tous les pays latinos, mais le rap espagnol d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de vivre leur âge d'or à eux. C'est-à-dire qu'il y a plein de groupes, personne ne se tire la bourre, il y a une espèce d'unité où il n'y a pas de Andalousie, Pays Basque. Comment dire, tous sont unis. Disons que le hip-hop fait qu'il n'y a aucune différence entre eux. Et en plus, il y a un gars qui s'occupe de réunir tout ça, qui s'appelle Franck T, qui est un Angolais débarqué depuis fort longtemps en Espagne par rapport à ses parents qui sont arrivés là-bas. Il aurait pu aller au Portugal, mais ils sont arrivés en Espagne. Puis lui a fait son chemin, et en fait, il a commencé à être animateur de soirée à la con, et puis donc il s'est retrouvé comme un bon maître de cérémonie, hein, master of ceremony, donc en espagnol maestro de ceremonia, et puis il a vu le rap espagnol commencer à émerger, mais ça a mis vachement de temps, et je sais pas par quel biais il a eu un plan pour avoir une émission sur RTVE, la radio nationale. C'est comme si c'était l'équivalent pas du MOUV mais de France Inter, où on lui a confié 2 heures par jour. C'est énorme. Et du coup, ces 2 heures par jour, il s'en est servi déjà pour faire écouter à l'Espagne le meilleur du rap américain, mais en filtrant toutes les merdes, et représenter tout le rap latino du Mexique à la Colombie, au Chili, etc. Et une fois ça étant fait, mettre en avant tout le rap espagnol. Et le rap espagnol est devenu tellement riche et fort, parce qu'en fait, c'est que des gars qui ont des vraies choses à dire, parce que la crise là-bas, hein, on a beau dire qu'ici on en chie, mais là-bas, bien plus qu'ici, et notamment, que ce soit les Équatoriens, enfin, toutes les populations immigrées. Donc il y a une espèce de mélange entre les précaires de chaque partie de l'Espagne, lié avec les communautés immigrées, et dont s'occupent ceux issus de la Movidas, donc de la libération quand Franco est tombé. Donc c'est la plupart de rockers qui ont eu la main sur des studios et qui ont fait de la production, et du coup c'est eux qui mixent les morceaux des rappeurs d'aujourd'hui. Donc il y a une espèce de toile indestructible, et super créative, où jamais ils sont contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, contre la mondialisation, et c'est super engagé, contrairement au rap français qui est victime de quoi on sait pas, et ouais, les pauvres de nous, mais finalement on parle que de shit, d'argent, de pute. Les homos, faut les tuer, les filles, c'est des salopes, faut se les faire en tournante, enfin. Le rap français d'aujourd'hui, t'entends des horreurs, mais tout. Et ces horreurs sont promotionnées par les gros labels qui signent ces gars-là, et ça passe sur Skyrock, et c'est diffusé dans toute la France. Résultat, les gamins pensent écouter une musique rebelle, alors que c'est qu'une musique consumériste. Après, ils sont même capables de faire des faux problème entre, par exemple, Booba et Rof, juste pour créer de la tension, du coup, sur les réseaux sociaux, t'as des clashs, ouais, attends, que je te chope, je vais te défoncer. Alors des fois, chacun envoie son équipe et ça se défonce à moitié, hein, juste pour que ça soit filmé et que ça fasse monter de buzz. Et du coup, chacun gagne des points parce que, évidemment, ils vendent plus de disques. Tout ça alimenté cyniquement par les mêmes, les majors. Donc, il y a Universal derrière, Virgin, enfin, les trois majors qui restent. Et je trouve que c'est d'un cynisme incroyable. Et qu'ils ont quand même réussi à mettre dans la tête des gars, on va dire, de 12 à 16 ans, tu vois, en pleine adolescence, que c'est ça le rap rebelle, tu vois. On parle de ouais, les biatches, les niques, les PD, je les brûle. Tout ça avec une espèce de vocodeur. Et mes biatches, les niques, hein, les PD, je les tue. Nanana. Et c'est ça le rap français d'aujourd'hui. Quoi. Par exemple, tous les anciens qui essaient de continuer, dont je fais partie, mais à côté de moi, il y a des gars comme Passy. Bon, Oxpo Puccino, artiste France Inter. Donc lui. Ça va, il est dans sa case, il restera dans 10 ans, il sera encore artiste France Inter, Abdelmalik sera toujours slammer France Inter, etc. Il sera tous les étés, les festivals, là il n'y a pas de souci. Mais à part ça, donc sur la quantité de gars qui ont vraiment des choses à dire, mais qui sont de toute façon écrasés avant même d'exister, vu que maintenant tout est jaugé par rapport au nombre de vues, tu vois, comme tout le monde sait, mais les gamins n'y croient pas, que les vues ça s'achète. J'ai même un plan, moi, ça coûte 500 € pour 100 000 vues. Et que vu comment est le système, une fois que t'as mis 500 €, on va dire que c'est un budget promotionnel, tu as tes 100 000 vues sur un clip. Hein. Et ben ce clip génère lui-même pour le clip d'après. Et ben les 100 000 se transforment en 200 000. Et si tu es malin et que tu te sers de ce que tu as apporté les 200 000 et que tu envoies partout, le clip d'après, tu es à 300 000. Alors, tu as des gars mais qui sortent de nulle part, qui sont à 500 000 vues sur Internet et tu vois le clip, c'est juste un pauvre gars qui fume un cigare dans une Mercedes louée, dans une pauvre cité et qui fait chauffer ses pneus, genre en mode rodéo, avec quelques copines qui sont en string et qui bougent leur cul autour de ça. Enfin, le rap français d'aujourd'hui, c'est ça. J'en ai écouté le mois dernier, j'ai écouté 200 disques, donc 210 fois 10 morceaux, pour essayer de trouver au moins un morceau par disque, et je n'ai pas trouvé. Je vais faire un spécial rap français sur RFI, je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai abandonné. Donc il y a de la quantité, hein. Genre sur la D 2016, il y a 310 disques de rap qui sont sortis.
Et c'est pas fini 2016.
C'est pas fini. Et ça vend, hein. Ça vend. Mais alors le pire, parce que là on peut balancer, hein, c'est pas le problème. C'est l'album de Cool Chain. Alors Cool Chain, c'est tu vois, NTM, c'est Cool Chain et Joey Star.
Ouais.
Donc Joey Star, des fois il revient avec un album. Bon là c'était quoi son truc? Les Caribbean Dandy. Bon, ça va. Ça passe. Cool Chain, lui, est devenu champion du monde de poker. Ouais. Donc, il fait la couverture des magazines, Poker Magazine, machin, etc. Donc, d'ailleurs, j'ai passé 2 heures à écrire un truc pour lui, tu vois, que je vais lui balancer sur son site. Mon délire, c'était comme si j'étais un critique musical, tu vois. Genre qui connaît un peu le rap à l'ancienne et tout, et qui a toujours soutenu. Et bon, c'était un peu rude ce que je disais, mais en gros, c'est pourquoi faire. Ça veut dire qu'entre deux tournois de poker, le gars dans un hôtel s'est dit « Ah, j'ai une idée. Tiens, je vais écrire quelques rimes. Oh, ça sonne pas mal. » Donc il s'est fait un petit calepin sur les trucs d'hôtel, tu vois. Et puis au bout de 10 hôtels, c'est ah mais quand même, ça ressemble. Ah bah j'ai 5 thématiques. Ah ça ressemble presque à un album. Du coup il appelle son manager ou un gars qui connaît dans les maisons de disques. Hey, j'ai presque un album qui peut être prêt là. T'as une idée pour les gars, pour la production, pour faire les sons? Ah bah ouais, mais attends, le gars qui est à la mode en ce moment, c'est celui-là, tu vas voir, il fait des trucs à l'américaine. Ah bon bah génial. 6 mois après, studio à New York, entre deux tournois de poker, et là, vas-y, on enregistre et tout. Et, oh, c'était plus malin ce que je disais. Et à la finale, ça pour dire, l'album, c'est juste tellement de la merde, tu te demandes, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'un ancien comme ça revienne, autant que ça serve à quelque chose. C'est des choses à dire, tu fais la morale aux jeunes, mais d'où tu vas faire la morale aux jeunes en tant que capitaliste qui fait les tournois de poker et qui pense qu'aux thunes, quoi. Donc le gars a absolument rien à dire. Son album est pathétique. Jouer star, c'est un peu moindre, mais bon, il est super cynique parce que bon, il a sa carrière d'acteur sur lequel il compte plus. Du coup, c'est sa récréation en fait, qu'il fait ses concerts avec ses acolytes, Caribbean Dandy. Du coup, il met en valeur le fait qu'il vienne de Martinique. Enfin, à moitié, c'est juste son père, pas sa mère. Enfin, bon, on s'accroche à ce qu'on peut. Je commence à être méchant. Hein.
Bah, tu t'appelles bien Dynasty, c'est ça, Dynasty, ça veut dire ouais. Ça ouais.
Dynasty, c'est pas dit le gentil, hein, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir pardonner certaines choses. Mais je considère que la plupart de ces gens-là ont fait n'importe quoi. Ils ont pris l'argent, ils l'ont gardé, ils n'en ont rien fait. Alors effectivement, Kouchen, il a eu un label chez Warner, donc c'était For My People, hein, le titre est beau, pour mes potes. Sauf que tous les gens qu'il a signé, il a tué leur carrière, c'était mixé dans le même studio, produit par les mêmes gars, que des trucs super raides. Et en plus, avec la force de frappe de Warner, du coup, c'était dans tous les bacs. Du coup, bah, la plupart des jeunes, ils avaient quasiment que ça à se mettre sous la dent. C'est ça qui était diffusé par Skyrock et pas les trucs indépendants, alors qu'il y en avait plein à l'époque. Et gars, il avait un budget, je sais pas, 1 million d'euros à dépenser par an pour faire une dizaine de maxi et peut-être un album. Du coup, bah, il a claqué ses thunes. Et de l'autre côté, Joe Star, lui, c'était BOSS. Exactement le même système, dans une autre maison disque. Exactement les mêmes résultats que des prods de merde qui servent à rien, qui ont jamais marqué le rap français. Et la plupart des artistes qui ont signé avec ces structures-là ont quasiment été étouffés et ont du mal à s'en remettre. Donc il y en a qui ont fait des procès pour récupérer, pour casser leur contrat et pouvoir être comme ils étaient avant, c'est-à-dire indépendants, tranquilles, quoi. Je pense à un gars comme Bustaflex, il a eu du mal à s'en remettre. IAM, ils ont fait la Cosca, boîte d'édition de production. En fait, ils ont fait pire que ce qu'on leur avait fait à eux. C'est-à-dire qu'ils ont signé des gens en édition, et autant une grosse boîte d'édition te donne une avance en contrepartie. Et puis une petite somme pour la bienvenue, voilà. Un petit cadeau. Mais après, l'argent qu'on te file, c'est de l'argent prêté, hein. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y a pas d'argent de bienvenue. On ne file aucun argent prêté. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on signe pendant 5 ans. Et en contrepartie, tu as droit d'enregistrer tes maquettes dans les studios de la Cosca. Cosca Production. Alors, il y en a que ça fait miroiter, tu vois. Et ceux qui sont rentrés dans le truc, il n'y en a aucun qui a sorti même pas la moitié d'un disque. Et la plupart du temps, ceux qui ont fait des trucs bien, finalement, ça a été repris par IAM eux-mêmes. Genre, ah ouais, lui, il écrit bien, allez, on te prend tes paroles, t'es en édition chez nous, du coup, on te file que la moitié de tes droits d'auteur sur ton texte. Et normal, hein, parce qu'on t'a signé en édition, et sois déjà bien content. Et après, on s'étonne que le rap français il soit devenu ce qu'il est devenu. Parce que tous les acteurs, tous ceux qui ont gagné de l'argent, même les DJ, les cut killers, personne n'a reversé un centime au hip-hop qui les a fait grandir. Je parle pas de moi, je parle du hip-hop en général, enfin, celui venu des États-Unis. Et en plus, là-bas, c'est clair, le moindre gars de quartier qui vend 1000 disques dans son quartier, bah, déjà, il pense à pousser son frère, et il va tout faire pour qu'il vende aussi 1000 disques. Et c'est comme ça qu'après, tout le monde se serre les coudes et la main dans la main. L'argent, d'où qu'elle vienne, en général, ça vient du business, hein, faut pas se leurrer. Hein. D'ailleurs, la plupart des petits labels indés français, voilà, c'est le shit qui a financé tout ça. À la base, ça devait servir à quelque chose. Sauf que dès qu'ils ont vu miroiter les labels, les passages radio et les avances Ils n'ont pas compris que c'était de l'argent prêté. Vaut mieux emprunter à une banque que emprunter à une maison disque, ça coûte moins cher. Parce qu'une maison disque, c'est 10% par an de pénalité sur les avances. Ils ne vont pas t'envoyer les huissiers, mais n'empêche que c'est la note, elle monte, etc. Et un jour, ils vont t'envoyer les huissiers. Et tu ne feras plus rien de ta vie, quoi, de toute façon.
Ah, c'est un monde vachement dur, dis donc. C'est un monde cruel.
Bah, tu t'attends à quoi ?
Ouais, c'est du business. Ces jeunes qui ont commencé dans le rap, dans le hip-hop, à partir d'un certain âge, comme ils connaissent tous les rouages, ils deviennent plus bons musicalement, mais ils deviennent bons pour escroquer.
Ils sont même pas plus bons musicalement. Et plus le temps passe, moins ils ont de choses à dire, puisqu'ils galèrent moins.
Ouais.
On va dire que la précarité nourrit une certaine création dans le rap. Normalement, un truc où c'est pas le truc de la complainte, c'est quand même parler des inégalités, machin, etc. Mais une fois que tu es dans la case capitaliste, où grâce à ton avance, à ta villa, ta piscine et ta Mercedes, tu vois, mais je me suis souvent foutu la gueule des nouveaux riches du rap en disant, mais on a fait tout ça pour qu'à la finale, la thune, elle aille chez les concessionnaires Mercedes. C'est quand même incroyable, quoi. Et les constructeurs de piscines, tu vois, couvertes pour ceux qui sont en Ile-de-France et pas couvertes pour ceux qui sont à Marseille. Tu dis, mais c'est ridicule, quoi. On a fait tout ça pour ça. Et vous êtes capable de, après, parler, ouais, les gangsters de Marseille, nanana. Mais quelle offense à ce que c'était au départ, quoi. C'était un truc de lascar, de rue, et c'était brutal, mais il n'y avait jamais de gros mots. Enfin, vu que l'argent n'a jamais été le moteur de le fait qu'on défende le hip-hop, à partir de là, et que le temps, beaucoup de temps a passé, nous, en vivant ça, du coup, quand l'argent est arrivé, eh ben, on l'a utilisé pour payer nos dettes, mais, et puis essayer d'en faire quelque chose. Enfin, moi, ça a tout de suite été le cas, quoi. Faire un petit label, essayer de tirer des gens. Enfin, ça n'a jamais été pour m'acheter un écran plat, un home cinéma.
D'ailleurs, t'en as pas.
J'en ai pas, la preuve, tu vois. Et j'en ai jamais eu que j'ai revendu, enfin, tu vois. Non, maintenant, j'ai une salle privée, sous ma villa, tu vois. J'invite les potes. C'est juste en dessous de la piscine. Et même, il y a un truc vitré, tu peux voir. En même temps, tu vois un film, tu vois les gens nager. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent chez moi, tu vois. Du coup, c'est super
oui,
beau.
Oui, ça, il y a des gens qui viennent chez toi, mais c'est sûr que c'est pas pour aller dans la piscine. Non, ça, c'est vrai, ni pour aller voir un film. Ouais. Bon, écoute, franchement, je te remercie.
Ben,
c'est vrai
rien.
Que j'avais la question.
C'est pas fini, ça, non ?
Ah, ben, si tu veux qu'on continue, moi, ça me dérange pas.
Ben, le portrait chinois, alors, c'est quoi ?
En fait, il n'y avait pas de portrait chinois, puisque tu m'as parlé. Est-ce que toi, tu aimerais aller en Espagne ? Est-ce que tu parles espagnol ?
Ouais.
Ben oui, parce que tu avais tourné avec un groupe...
Hablo castellano bastante, un poquito bastante. Entonces, effectivement, yo he ido en América del Sur durante un año, y después, tres años con los cubanos, Cachaito López, Miguel Angarias, y todo. Y me gusta mucho hablar espagnol,
et du
más
coup,
que inglés.
Du coup, tu vas le faire revenir en France et toi, tu vas aller
chez lui. Ce que je vais essayer de faire, c'est que là, je suis en train de créer un label qui s'appelle Furious, voilà, qui est voué à l'international. Donc, beaucoup d'artistes américains ou anglophones, ça peut être australien ou voilà, des gens qui ont des choses à dire et qui sont fâchés. Furieux n'étant pas haineux, c'est juste des gens en colère, voilà. Mais dans le côté positif. Je pense que furieux, ça veut dire ça. Donc en Espagne, j'aimerais bien, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vinyles, donc proposer à certains gars que je connais, dont j'apprécie le travail, leur proposer d'avoir une diffusion mondiale, un petit pressage de 500 exemplaires, mais qui a un vinyle, voilà, ça fait partie du programme. Le rap français, bon, j'ai un ami qui travaille qui s'appelle Médouze, on a un album qui est prêt qui s'appelle Changer la donne. Donc c'est tout un programme et les paroles sont profondes et la démarche est vraiment authentique. Du coup, on fait ça en totale indépendance. On ne veut même pas se mettre avec un distributeur qui va prendre la moitié de notre argent, qui ne va pas distribuer notre disque. Du coup, on met la main à la poche, on presse 500 CD et 500 vinyles pour un maxi 3 titres. Il y aura deux morceaux dessus, dont un qui s'appelle Représente le hip-hop, avec un rappeur chilien, un rappeur américain qui vit à Berlin, donc c'est un trilingue. Et l'autre face, c'est un morceau qui s'appelle Stop la violence, qu'on avait fait juste avant les attentats du 23 novembre, et du coup qui a pris toute son importance de ce qui est arrivé. Ça explique super bien dans un langage simple. Donc moi, je rappe pas, moi je fais les bacs sur les concerts. Donc je double les voix, je fais les refrains, sinon je fais toute la production artistique.
Et t'écris ?
Alors moi j'écris, mais après j'ai du mal à mémoriser ce que j'écris. Du coup, j'arrive pas à les rapper.
En tout cas, tu me l'as dit tout à l'heure, tu me les as redit, tout ce que tu avais fait cette nuit déjà, c'est pas mal.
C'est pas mal,
ouais.
Ouais. Enfin, vite fait.
Merci. Alors, Daniel Dynasty.
Daniel Dynasty. Daniel Dynastoche.
Merci, Daniel Dynastoche.